Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au Sur la Terre des Hommes Podcast et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes Podcast. Si vous possédez un iPhone, prenez une minute pour nous laisser un avis. Ainsi, vous allez faire grimper le podcast dans le moteur de recherche. Finalement, si vous voulez encourager Sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. patreon.com. Recherchez Sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la Terre des Hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons éco-énergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons Nouveau Climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181.
Grâce à vous tous qui êtes ici ce soir.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un épisode spécial, mais quand même l'épisode 191 de Sur la Terre des Hommes qui va être moins joyeux que d'habitude, on va le dire. Je reçois premièrement mon cher ami Anthony Pomerleau. Comment vas-tu?
Je me porte à ravir et toi, mon cher Jérémy?
Ben ça va bien, la voix, ça va moins bien, mais ça, on devrait s'en sortir.
Je remarque que tu es revêtu d'un beau chandail tricolore.
Oui, le chandail blanc et argenté avec des stripes argentés avec les années de la Coupe Stanley. C'était le chandail du 100e de la Ligue nationale, je crois, ce chandail-là. Oui, oui. Très beau en passant. Un des chandails blancs du CH que j'affectionne particulièrement.
Moi, je me suis permis le poche et fils là, avec le petit côté NHL 94. Là.
Ah oui!
Là, ce qu'on voit, dans le fond, c'est Patrick Roy. Puis devant lui, c'est Jean-Jacques Desnieux qui reçoit la passe de Matthew Schneider.
J'adore ça. Moi, ouais, ça, ma voix, comme je disais, messieurs, je suis en train de cuver un restant de grippe et puis c'est rendu dans ma gorge, mais je suis capable d'être là cet après-midi. Et puis, pour la première fois dans Sur la Terre des Hommes, Jean Morin, comment vas-tu, Jean?
Ça va très bien, Jay. Merci beaucoup de m'accueillir à ton émission pour une première, c'est mon baptême.
Ben oui, c'est ça.
Puis je me suis content d'être devant la planète de ton background.
Ben oui, c'est vrai, le logo de Sur la Terre des Hommes. Puis j'ai pensé à toi, Jean, parce que je me suis dit, dans des soupers de famille, etc., on parle tout le temps de hockey, toi et moi. Et puis je me suis dit, c'est le moment, je vais inviter Jean pour venir parler d'une grande légende qui nous a quittés, Guy Lafleur. Ça a été, moi personnellement, ça a été un choc. Je ne sais pas pour vous, je le savais malade. Mais à ce point-là, qu'elle allait décéder aussi rapidement, ça a été un choc. Et puis, ouais. Pour toi, Jean, comment t'as pris ça?
Ben, tu sais, avec le décès de Mike Bossy là, dans les derniers jours, ouais. T'sais, même si on s'est beaucoup concentré sur Mike Bossy à ce moment-là, moi, puis probablement que vous aussi, je pouvais pas m'empêcher de penser à Guy Lafleur, parce que je savais qu'il combattait le cancer. Je savais pas où il était rendu dans ses traitements, puis où il était dans son combat là, avec le cancer du poumon. Puis, mais j'avais pas le choix d'y penser. T'sais. Puis à un moment donné, je l'ai vu apparaître sur Facebook. Je pense que c'est les Canadiens de Montréal qui ont envoyé le message en disant aux gens « Je sais que vous vous êtes inquiet par rapport à la santé de M. Lafleur, mais s'il vous plaît, veuillez rester discret, pas poser de questions. » Puis là, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit « Oh boy! »
Ça s'en vient.
J'avais vraiment le feeling que c'était une question de jour là, avant qu'on sache, là, malheureusement, là, son décès.
Et puis, on a su cette semaine que M. Lafleur avait arrêté ses traitements contre le cancer dans le temps des fêtes, en 2021. Fait que ça faisait quand même quasiment 4 mois qu'il avait arrêté ses traitements. Mais c'est vrai, moi, avec ce message-là, ça a été la même chose. Je me suis dit, OK, c'est peut-être un avertissement que... Okay, ça va pas bien, puis ça s'en vient.
Voilà. Oui, c'est ça. En entendant à RDS Gilbert Delorme, Gilbert, il a eu des problèmes de santé aussi, puis dans les dernières semaines, mois. Puis M. Lafleur a pris la peine de l'appeler quand même pour savoir comment il se portait.
Okay.
Puis là, Gilbert il racontait qu'il y avait de la difficulté à comprendre au téléphone sa voix parce qu'elle était vraiment rauque. Puis là, il racontait que... Il avait arrêté ses traitements parce que là, ça commençait à devenir difficile pour sa famille. Lui aussi, là, il trouvait qu'il y avait de la difficulté à combattre. Là, fait qu'il avait pris la décision de tout arrêter. Mais tu sais, peut-être 2 ou 3 semaines là, avant de décéder, quand même, il a pris la peine d'appeler quelqu'un pour s'enquérir de sa santé. Fait que ça montre, juste ça montre à quel point c'est un homme extraordinaire.
Ben justement, on va. Aujourd'hui, on va célébrer Guy Lafleur. On va. On peut le pleurer. Moi, personnellement, hier, j'ai eu vraiment la larme à l'œil quand j'ai vu les différents montages vidéo de sa carrière, etc. Mais aujourd'hui, on veut célébrer la carrière de Guy Lafleur. Comme le titre de l'épisode le dit, le dernier des géants. Peut-être que certains vont dire non, il reste encore des géants. Par exemple, peut-être Patrick Roy, Yvan Cournoyer. Mais moi, dans ma catégorie de gigantisme du Canadien de Montréal, je place Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur, l'espèce de sainte trinité de la sainte flanelle. Pour vous, les gars, est-ce que c'est le dernier des géants qui nous quitte ou...
J'oserais ajouter à ça Howie Morenz.
C'est vrai, oui.
Parce que ça a été un joueur exceptionnel. Dans le fond, ce qu'on veut se dire, c'est que pendant une certaine période donnée, ce joueur-là, qui était dans la franchise du Canadien de Montréal, était le joueur le plus dominant de sa ligue. Puis les 4 noms qu'on a nommés l'ont été sur plusieurs années.
Ouais.
Patrick Roy, c'est un grand, mais il y a eu des runs, entre autres, en série incroyables. Il y a eu des très belles saisons aussi à Montréal. On s'entend, il est pas très loin, on pourrait dire, mais il y a vraiment, moi je vois vraiment sur ce tableau-là, un peu ces 4. Grand là. C'est les 4 qui ont été honorés aussi aux côtés du Centre Bell avec des statues. Là. Je pense qu'ils ont été déplacés là, maintenant.
Ouais.
Et puis, ce que je dirais là, de ça, c'est que oui, en effet, Guy Lafleur était probablement le dernier exceptionnel. C'est lui qui, dans le fond, Wayne Gretzky a pris le flambeau des mains de Guy Lafleur totalement. Et un flambeau que Guy a ramassé de Bobby Orr quelque temps vers les mid-70s environ. Là. Et puis, c'est vraiment dans cette optique-là que je vois ça. Ça a juste été un gars qui allait de jeu à la porte-pièce, qui était aussi tellement clutch à des moments tellement importants. On se souvient d'un but qu'on va probablement reparler tantôt là, contre les Bruins de Boston.
Oui, et puis qu'on va partager sur le podcast, justement. On va le regarder ensemble.
Juste la description, mettez ça dans vos écouteurs, puis imaginez-vous, vous étiez à la radio parce que c'était fort possible dans ces années-là. Tu es en train de travailler, faire vivre ta famille, tu travailles 70 heures semaine, là, je sais pas, whatever, où. Puis là, tu es à la radio, puis tu entends ça, la description. Premièrement, en tout cas, peut-être qu'on va reparler tantôt, mais
juste de savoir
la punition appelée, tout le flafla qui vient avec ça, l'ambiance dans le forum. En effet. En effet, c'est vraiment quelque chose. C'est moi, de mon côté, je trouve que c'est une énorme perte aussi. Et puis, c'était Guy Lafleur, jusqu'en dernier, puis il l'a encore, c'est le CH. C'était encore la légende vivante. Tout le monde écoutait ce qu'il avait à dire, Guy Lafleur. L'opinion de Guy Lafleur était tellement importante. Qui peut se faire applaudir avec un chandail des Nordiques au Forum? Il n'y a personne d'autre que Guy Lafleur. Fait que pour moi, c'est le top du top.
Ouais, ça a été un des... le seul à se faire applaudir en scorant. Je pense que c'est Patrick Roy qui s'est fait scorer contre Guy Lafleur avec un chandail des Nordiques. Puis le monde était debout, pareil, comme s'il était encore avec le Canadien. Là, c'est vraiment incroyable.
Le but de faire référence, c'est contre les... Il était pour les Rangers.
Ah, les Rangers. OK, les Rangers. Okay.
Mais c'était son retour au Forum. Deux buts.
C'est incroyable. Là.
Après trois ans, c'est comme Mario Lemieux. Il est revenu, puis... Il était tout de suite dominant dans le game. Mario Lemieux, tout, pendant trois ans, il n'a pas joué. Il est revenu, il était dominant quand même. Là, tu sais, c'est 45 points en 67 matchs en revenant à 37 ans.
Non, ça n'a pas de bon sens. Puis justement, aujourd'hui, on va parler de cette retraite prématurée avec le Canadien, de son retour. Peut-être que, on va parler aussi de problèmes que Guy Lafleur a vécu dans les années 80, qui a dû se retirer, qui est revenu, etc. Anthony, est-ce que je peux te demander, un peu comme dans Maillé Podcast la dernière fois, est-ce que tu peux te reconnecter parce que ton son griche?
Pas de problème.
OK. pendant ce temps-là, Jean, j'avais partagé les fameuses statistiques de Guy Lafleur. Vous allez voir, c'est très, très impressionnant. Je vais ouvrir mes nombreux dossiers que j'ai faits avant l'enregistrement. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je vais zoomer le tout pour qu'on voit mieux. Alors, Guy Lafleur, premier choix au total, choisi par le Canadien de Montréal en 1971. Une entourloupette de Sam Pollock, il faut le dire. parce que le Canadien était champion de la Coupe Stanley de la saison 70-71. Alors, n'avait pas le premier choix au total. Et puis, c'était fini l'époque où est-ce que le Canadien avait le premier choix québécois, hein, le premier choix francophone, là, la fameuse, la loi C, je pense qu'elle s'appelait, là, la règle où est-ce que le Canadien avait le premier choix québécois, ça n'existait plus dans le temps de Guy Lafleur. Mais pour réussir à aller repêcher Guy Lafleur, les Canadiens sont allés faire un échange avec les Golden Seals de la Californie pour aller chercher ce fameux premier choix-là qui est devenu Guy Lafleur. Et puis, c'était une année, on va en parler, là, mais c'était une année où est-ce qu'il y avait deux jeunes francophones très, 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 très en demande pour le premier choix. Il y avait Guy Lafleur et Marcel Dion. OK? Marcel Dion, est-ce qu'il est franco-ontarien, Jean? Est-ce que tu sais ça? Il me semble qu'il n'est pas...
Je m'en rappelle plus, honnêtement.
Je pense qu'il est franco.
Malgré mes connaissances au hockey, je connais vraiment très peu
Marcel Dion.
Je sais que la carrière qu'il est allé faire dans l'Ouest, là, je sais qu'est-ce qu'il a représenté là, dans l'évolution du hockey pour l'Ouest américain. Mais je connais pas grand-chose de Marcel Dion, mais il y avait vraiment là, pas une chicane, mais dans les premières années que Guy Lafleur a commencé à jouer pour le Canadien de Montréal, ben là, ça jasait pas mal. Est-ce que le Canadien a fait le bon choix?
Oui, parce que...
Est-ce qu'il aurait dû prendre finalement Marcel Dion, mais finalement... Les chiffres sont là maintenant, là, mais au début, là, ça jasait pas mal. Un petit peu comme ça a pu jaser quand les Canadiens ont repêché les différents premiers choix au repêchage des dernières années du Canadien de Montréal qui sont pour certains des flops. Là. C'est pas étonnant que Timmins ait perdu sa job en fin de compte. Là.
Ouais.
Mais c'est un petit peu les mêmes discussions. T'sais. Puis finalement, un joueur qui est là à démarrer, est-ce que l'équipe a fait le bon choix ou pas? Puis. C'est dans le cas de Guy Lafleur, ça a été le bon choix.
Vas-y, Paumé, t'as levé le doigt. Concernant Marcel Dion.
1-2-1-2, testé.
Oui, là, ça va bien.
Oui, Marcel Dion, oui, c'est un Québécois, mais okay. Il est parti jouer dans le secteur de Toronto assez jeune. Là.
Ah, OK.
Je pense à 12 ou 13 ans, il était déjà parti.
Marcel Dionne, il a eu des traitements assez difficiles dans une finale de Coupe Memorial, entre autres contre les Remparts. Il se faisait lancer des choses par les partisans, entre autres parce qu'il avait choisi d'aller en Ontario au lieu du Québec. Il y a eu quand même une petite polémique là-dedans aussi.
Okay.
Et puis, c'était les Red Wings de Détourant à l'époque qui ont mis la main sur Marcel Dionne. C'est lors d'une transaction par la suite que les Kings ont mis la main sur ce joueur-là. C'est quand même assez incroyable. Si tu cliques dans l'écran « Show Trades », on va voir, on va remarquer peut-être l'échange du choix. Je ne sais pas si...
Parce que l'image qu'on a là, c'est,
c'est une capture d'écran.
Je ne peux pas aller voir malheureusement, mais attends, au pire, je peux aller...
Je l'ai sous... Mais c'est vraiment, dans le fond... non, ils ne l'ont pas mis, mais c'est 2 ans auparavant. C'est un échange impliquant Carole Vanney à l'époque qui est parti jouer pour les Golden Seals de la Californie. Et un autre choix qui est devenu un joueur qui a permis aux Golden Seas, si je ne me trompe pas, de finir en haut d'une autre équipe. Puis je ne me trompe pas, il avait fait un échange aux Golden Seas, mais le choix, si je ne me trompe pas, c'était peut-être un choix de Los Angeles, mais peut-être que je me trompe. Okay. Mais il y avait une gimmick de ce type-là qui faisait que, dans le fond, il a renforcé ou il a. Il a peut-être échangé d'autres gars, mettons, à Los Angeles, puis il a renforcé une des deux équipes pour que l'autre finisse.
Ben c'est Los Angeles. Je pense qu'ils ont fait un échange pour renforcer Los Angeles pour être sûr que les Golden Seals finissent dernier, puis que le Canadien ait le premier choix pour repêcher Guy Lafleur.
Ça s'est étalé sur 2 ou 3 ans, cette histoire.
Ça n'a aucun bon sens, là. Okay,
c'est wise.
Ben c'est wise, puis c'est du gambling à l'état pur. C'est long shot à
Paris, là.
Si je ne me trompe pas, là, 67, 68 à peu près, c'était terminé, même peut-être un peu avant, peut-être 63-4, c'était terminé l'exclusivité du joueur francophone pour le Canadien de Montréal. Et puis, il y a bien des gens qui disaient que le Canadien en avait joué pendant X nombre d'années. Mettons que c'est en 68 que ça a changé pour la Ligue nationale. Après, mettons, je ne sais pas moi, ils ont décidé après l'expansion qu'ils faisaient ça. Mais on regardait les choix que le Canadien avait fait pendant les années 60, et même s'il avait le premier choix québécois, il n'y avait pas tant de phénomes là-dedans. Là.
Ouais.
Oui, il y avait des très, très bons joueurs. T'sais, on peut peut-être nommer des Guy Lapointe et des Serge Chavard qui ont été comme un peu... Parce qu'à l'époque, t'sais, des fois, il était repêché, mais avant qu'il le repêché à l'Universal, il était plus signé. Fait que, t'sais, il y a eu des... c'était un peu hybride la façon d'aller chercher nos joueurs, surtout à 6 équipes là, dans le milieu des années 60. Donc, Sam Pollock, lui, dans le fond, il était juste un maître parmi des enfants. Là. Il est arrivé avec des directeurs généraux avec peu d'expérience.
Où est-ce que les choix au repêchage s'échangeaient à qui mieux? Là, que on regardait plus les joueurs établis que le repêchage. Là. Dans les années 60, 70, etc., c'est plus tard que c'est devenu une espèce de science, un peu le repêchage, le développement, etc. Là.
Puis le Canadien, il avait beaucoup d'avance. Il était partout en Ontario et au Québec depuis des années. C'est le Canadien, c'est... Là, on parle de Sam Pollock, mais j'essaie de me souvenir là, le nom du DG, là, l'autre légendaire juste avant, là.
Selke?
Selke. C'est Selke qui a suggéré au Red Wings de Détroit d'aller chercher Gordie Howe.
OK.
Ils ont dit regardez, je pense qu'il jouait pour Mississauga. Il dit regardez tel numéro, Mississauga. Si vous le prenez pas, on le prend.
Puis finalement, Détroit a pris Gordie Howe.
Exactement.
Aïe.
Il était partout Montréal. Toutes les rats d'Arena.
Ouais, c'est ça.
Ils avaient tout en Ontario, au Québec, puis des Maritimes.
Exact.
Moins aux États-Unis, mais ils couvraient un gros secteur quand même.
Pour ceux qui sont en podcast, j'ai partagé, pour ceux qui sont live sur la page Sur la Terre des Hommes, les statistiques qui viennent de Hockey DB sur Guy Lafleur. On voit que les 3 premières saisons de Guy Lafleur, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire, les gars. Là. On voit qu'en 73 matchs, 29 buts, 35 passes pour 64 points. C'est bien pour une recrue, là, mais c'est pas extraordinaire. Puis je pense que cette année-là, le trophée de la meilleure recrue, le trophée Calder, est allé à Ken Dryden. cette année-là, en 71-72. En 72-73, la deuxième saison de Guy Lafleur, 69 matchs, 28 buts, 27 passes pour 55 points. OK. OK, mais c'est pas le remplaçant de le remplaçant de Jean Béliveau qu'on attend là. Troisième saison, 21 buts, 35 passes, 56 points. Et puis c'est là que le DG de l'époque, M. Pollock, a dit Guy Lafleur, c'est un joueur banal, il est comme les autres. Et puis Guy Lafleur, pour sa quatrième saison, soit la saison 74-75, enlève son casque qui donnait une allure quasiment de ballon de soccer sur la tête et puis explose littéralement 53 buts, 66 passes, 119 points. L'année d'ensuite, 125 points, 136 points, 132, 129, etc., etc.
Le seul marqueur de 60 buts de l'histoire du Canadien de Montréal.
C'est vrai, hein?
Mm-hmm.
C'est vrai.
Shot, il a pas réussi à faire ça. Pierre Larouche, il en a fait beaucoup aussi, m'en fait piquer la main, qui a joué sur le même trio. Ça, c'est Pierre Larouche, Guy Lafleur et compagnie. T'sais, on a déjà parlé de Dagenais, Ribeiro et José Théodore.
Ouais, ouais.
Ça se ressemblait un petit peu.
OK. <C'était>... Les trois amigos de ces années-là.
Ouais.
Ouais.
Imagine-toi l'époque disco. Tout ce qui vient avec.
y compris un album disco que Guy Lafleur a enregistré, là, hein, qui parle de ses conseils pour être une légende du hockey.
Ces trois années-là, Jay, les trois premières années de Lafleur,
ouais.
64 points dans une saison en jouant quoi? De 5 à 10 minutes.
Oui, parce qu'il était.
Il n'y a pas beaucoup de temps sur le ouais. puissance. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui réussiraient à faire ça aujourd'hui. Puis même dans le temps, là, il y avait très peu de joueurs qui pouvaient faire autant de points que ça en si peu de minutes jouées.
Ouais.
On disait que c'est Ken Dryden qui a gagné le trophée, mais Ken Dryden, il jouait 60 minutes par match. Mm-hmm. Il en jouait pas mal plus que Guy Lafleur. Fait que c'est sûr que sa relation avec Scotty Bowman n'était pas au mieux. Puis c'était dans les us et coutumes de dire aux nouveaux qui arrivaient, malgré ton talent, tu vas t'asseoir au bout du banc. Quand il y a des moments corsés dans un match, on arrive, il reste 5-10 minutes à la fin de la game, on mène 2-1. Le jeune, lui, il s'assoit. Ouais. Lafleur, lui, il a eu à passer par ce moment-là.
Ouais.
Puis, à un moment donné, après 3 ans, là, c'est pas mal ça, là, après 3 ans, la quatrième année, là, peut-être avec des responsabilités différentes, peut-être que dans la chambre, on sentait là, qu'il était prêt à passer à autre chose aussi. Mm-hmm. Il a dû ronger son frein. Je ne pense pas que c'est une question de lâcheté ou quoi que ce soit dans ses premières années. Je pense vraiment qu'il rongeait son frein là, durant ce temps-là. Puis qu'il a eu le feu vert à partir de la quatrième année. Puis go, là, il a produit. Parce qu'un gars qui fait autant de points que ça dans le junior, avec les Remparts de Québec notamment. Là,
ça n'avait pas de bon sens. Il y a des saisons de 100 buts. Là.
C'est ça. Fait que, tu sais, tu parlais des attentes tantôt, là. Oui. Les attentes étaient grandes quand il est arrivé.
Ben justement, parlons-en des attentes, parce que depuis des générations, le Canadien compte sur de grandes vedettes qu'on parle, justement, comme tu as dit tantôt, Paumé, dans le début des années 1920 avec Howie Morenz. 1930 aussi, Howie Morenz, je crois qu'il est décédé, quelque chose comme ça. Alors, années 20,
en 1937.
En 37, OK. Alors, dans les années 30, excusez-moi. Henry Morenz. Après ça, années 40, c'est plus tranquille. Ensuite, arrive Maurice Richard.
Ben, années 45. 42, Maurice Richard arrive.
Ah, c'est en 42? Je pensais que c'était en 45.
Ouais, puis son 50, c'était en
44-45,
je pense.
Ah, OK. Je pensais dans le
deuxième moitié. Il a scoré 50 buts une fois dans sa carrière, puis c'est cette année-là.
OK. 50
en 50.
Fait que tu sais, Maurice Richard, années 40 et 50, surtout pour les années 50, parce qu'il prend sa retraite en 59. En
50, c'est Béliveau, ouais.
C'est
ouais,
ça.
S'en allait là.
Ouais, c'est ça. Béliveau, ensuite, années 50-60. Et puis là, arrive, justement, dans les années 70, un jeune qu'on compare à un nouveau Jean Béliveau, qu'on scrute depuis, qui est au niveau Pee-Wee. Guy Lafleur, est-ce que c'est un des premiers pas enfants joueurs vedettes, mais un des premiers jeunes qu'on suit tout le long de son parcours pour arriver à son repêchage et dire que ça va être une super vedette? Parce qu'avant ça, là, on parlait pas, mettons, d'un Jean Béliveau à 5 ans là, ou à 9 ans, là, tu sais. Mais Guy Lafleur est scruté depuis son Pee-wee, là. OK? Puis, on arrive finalement à son année de repêchage, puis ça fait des années qu'on le suit. Est-ce que c'est un des premiers paumés, selon toi, qu'on scrute à la loupe comme ça?
Le premier, là, le premier genre de Next One, là, un peu, là, qu'il y a eu, je te dirais, c'est Bobby Orr.
OK.
Bobby Orr, il était déjà connu d'être vraiment jeune, puis il était vraiment déjà voué à avoir une grande carrière. Fait que, je te dirais, là, c'est un peu là que je crois que la trail s'est tapée. Okay. Mais Guy Lafleur, en effet, là, rentre dans ces critères-là depuis le fameux tournoi Pee-wee de Québec. Ouais. Et puis, même avant, là, peut-être pas à la grandeur de la province de Québec, là, mais dans le secteur autant de l'Outaouais que de d'autres clubs, peut-être, là, qui pouvaient affronter en tournoi dans la région métropolitaine, etc., là, le nom de Guy Lafleur était très bien connu. Okay. Puis c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il y a comme eu cette espèce d'explosion-là parce que quand Guy Lafleur a été repêché, Wayne Gretzky était déjà très bien connu. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que Wayne Gretzky, il est né genre en 1962. Fait que, mettons, là, il était repêché en 71, là, mais à 8 ans à peu près autour de Toronto, tout le monde savait c'était qui Wayne Gretzky.
OK.
Tu sais, il y avait déjà, je pense, une photo avec Gordie Howe, etc. Puis, tu sais, c'était vraiment, là, c'est tout né un peu des mêmes moules, ça, ces jeunes-là. Puis là, après ça, ben, là, l'histoire, le big history, là, le tournoi Pee-wee Québec, entre autres, a souvent été le barème, la vitrine pour voir quel jeune qu'on a vu jouer là puis qu'on a vu après. La liste est longue, elle est très, très longue. Mm. Autant européen en passant que nord-américain.
Mm-hmm. Puis parlant de ces idoles-là, justement, de ces joueurs, de ces super vedettes du Canadien, admettons qu'on se concentre sur le Canadien, on peut dire que, admettons, nos grands-parents, c'était Maurice Richard / Jean Béliveau. Mais arrive Guy Lafleur, un baby boomer, commence à jouer dans la Ligue nationale dans les années 70 et l'idole de cette nouvelle génération. De cette nouvelle génération qui commence à être très présente, on s'entend, dans la société québécoise de ce temps-là, et dans les années qui vont suivre, on s'entend, pas la première année, mais toutes les années 70, les années 80, c'est la période des baby-boomers, et arrive justement ce boomer-là, ce baby-boomer, qui est Guy Lafleur, et qui est un joueur générationnel ultra talentueux. Ça a frappé les esprits, là.
Écoute, en 1976-77, c'est l'année des 8 défaites là, du Canadien.
Oh oui, là.
Il gagne la coupe, gagne tout. Le Conn Smythe revient à Guy Lafleur, hein. C'est bien sûr 26 points en 14 matchs de série. Mais c'est plus que ça, c'est sa meilleure saison avec 136 points. Mais en même temps, imaginez-vous, il y a bien des gens qui pensent que c'est la meilleure formation de l'histoire de la Ligue nationale.
Mm-hmm.
Écoute, s'il avait joué les deux matchs de plus que qu'est-ce que les Red Wings ont fait en 96-17 environ, là, quand ils ont eu leurs 62 victoires canadiens, puis imaginez en plus s'il avait eu l'occasion d'aller en prolongation en saison régulière. Après trois périodes, ça finissait là. La prolongation est arrivée plus tard. Donc, les opportunités d'aller chercher dans les 12 matchs nuls qu'il y avait, d'aller chercher une coupe de victoire là-dedans, bref, c'est phénoménal. Et qui était le meilleur joueur de la meilleure formation de l'histoire de la Ligue nationale? Puis là, je cite Pierre Lebrun dans son hommage d'hier, mais c'était Guy Lafleur. Fait qu'il faut voir Guy Lafleur de cette façon-là.
Le meilleur joueur de la meilleure édition, de la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue nationale, c'est ça. Ça donne Guy Lafleur, absolument. Avant de continuer, parce que là, on parle de Guy Lafleur dans les années 70 comme étant possiblement le meilleur joueur des années 70. OK, on s'entend. Je vais vous partager une deuxième image des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale dans les années 70. Et puis, ça donne ça. Au premier rang, ce n'est pas Guy Lafleur, pour ceux qui sont en podcast. C'est un certain Phil Esposito qui a joué avec les Blackhawks, Boston, surtout dans les années 70, et les Rangers de New York. Esposito, dans les années 70, 782 matchs, dont 1087 points. OK? Ce qui est très... c'est quand même quelque chose. Et en deuxième position, arrive Guy Lafleur avec une centaine de matchs en moins. 677 pour 941 points. Okay? Et le troisième, on en a parlé en début d'épisode, Marcel Dionne, 699 matchs dans les années 70 avec 928 points. Alors, c'est comme les trois meilleurs joueurs. Puis là, c'est sûr, après ça, tu as Bobby Clark, Gilbert Perreault, etc. Là, j'ai sorti le top 5. Mais les trois meilleurs joueurs des années 70, côté points, Phil Esposito, Guy Lafleur et Marcel Dionne.
Espo, regardez l'année de naissance comparé aux autres.
Oui, c'est ça. Il est plus vieux aussi, là.
Lui, il a commencé quand même à Chicago à l'époque, après ça, avec Boston. Et il était là dans les grandes années de Boston. Lui, il a vraiment pu profiter d'avoir Bobby Orr parce que c'est un ramasseur de poubelle devant le filet. C'est un gros gars. Puis lui, il faisait de son mieux faire dévier à puck pour prendre les rebounds. Puis il a toujours été quand même un très, très bon joueur jusqu'en dernier. Là, il a pris sa retraite quand même assez tard. Là, mais moi, c'est quand même un excellent joueur qui n'est pas cité si souvent que ça comme un des grands, mais
c'est vrai.
Regardez,
hein?
C'est quand même des gros stats. Là.
Ça n'a aucun sens. Là. Ouais. Ça n'a vraiment aucun sens.
Esposito, c'est un joueur hargneux. Je pense que dans cette liste-là, OK, il y a Bobby Clark aussi, là, mais si je pouvais choisir un joueur contre qui ne pas jouer, je pense que ce serait Phil Esposito. Là. Ça ne me tenterait pas d'être à côté de lui. Là.
Ouais.
Il est intimidant.
Oui, exactement. Et puis, pour ceux, je répète, qui sont en podcast, Anthony a dit, regardez l'année de naissance, c'est que Phil Esposito est né en 1942. Et puis les autres, début années 50, là, Guy Lafleur, 51, Marcel Dionne, 51, Bobby Clark, 49, et Gilbert Perreault, 1950. Alors, c'était un vétéran dans les années 70, Phil Esposito, qui a engrangé tous ces points-là, avec 1087 en 782 games. Okay, c'est...
Puis, tu sais, Esposito a joué 100 matchs, à peu près 100 matchs de plus que Lafleur.
Fait que ouais.
En ayant fait à peu près 100 points de plus aussi, fait qu'on voit que il mérite sa place là, aussi. Oui, dans ce...
Absolument. C'est pas mal la même chose. C'est vrai, avec la centaine de matchs de plus de Phil Esposito, c'est pas mal le même ratio, là, on s'entend. Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et c'est des statistiques intéressantes parce qu'on voit à quel point Dionne et Lafleur, en termes de nombre de points, se ressemblent beaucoup. Évidemment, Dionne n'a pas eu la même équipe. Fait que on peut voir aussi à quel point c'est un bon joueur. Là.
Puis pas la même conférence non plus. Il faut dire que Marcel Dionne, dans le temps, Détroit était dans la division. C'était pas les vrais noms, là. On s'entend, c'était quoi? C'est Adams dans ce temps-là. Mais tu sais, la conférence de l'Est et de l'Ouest, mais Marcel Dionne, en étant dans l'Ouest, en jouant contre les Golden Seals, puis les Blues, puis etc., comment je dirais ça, il l'a tué plus facile, vous pensez? Là, je veux rien entendre à M. Dionne.
Il y avait un gros trio là, à Los Angeles. Il jouait avec Dave Taylor puis Charlie Sammer, puis c'était quand même un trio là, de gars qui frôlait les 50 goals.
Okay.
Mais après ça, c'était plus petit, mais tu sais, écoute, il y a des joueurs qui ont dominé là-bas, mais mettons, Gatien Vachon entre autres dans les filets, etc. Sauf que, tu sais, j'avoue que peut-être la possibilité de jouer plus souvent contre certaines équipes a probablement peut-être gonflé un peu ses stats, mais en même temps, Guy Lafleur aussi, veut pas jouer dans une équipe assez extraordinaire, donc quand tu fais ta passe, puis l'autre, le gars, c'est Steve Schott, ben, c'est sûr que tu accumules les points toi aussi.
Ouais. Le joueur de centre, c'était qui de Guy Lafleur et de...
Non, Jacques Lemaire.
Jacques Lemaire, c'est vrai.
Lemaire chote Lafleur.
Ouais. Lemaire chote Lafleur.
Lemaire chote Lafleur.
Ouais.
Pete Mavlich aussi un peu.
Qui est devenu son coach par après, puis que ça n'a pas vraiment fonctionné. Hein, quand Jacques Lemaire est devenu l'entraîneur du Canadien.
Non, c'est ça. Déjà, Lemaire, c'est un génie au hockey. Là.
Ouais.
Non seulement quand il était joueur, mais... En tant qu'entraîneur, très tôt, le maire voulait instaurer un système. On a perdu...
Anthony va se reconnecter parce que son
gris champion. Je vais continuer.
Ouais, vas-y.
Très tôt, on voulait instaurer un système défensif là, qui, évidemment, pouvait ne pas plaire à Guy Lafleur, là, qui était un joueur vraiment axé sur l'offensive. Là. on s'est jamais bien ben préoccupé des plus et des moins de Guy Lafleur. Là.
Ouais.
Donc, c'est dur à savoir. Quand on voit ses extraits à la télévision, on voit jamais ses prouesses défensives là, à Guy Lafleur. Il y a quelque chose qui me dit que c'est un joueur purement offensif. Donc, c'est sûr que Lafleur qui arrive avec un système défensif, alors que les équipes n'avaient pas de système défensif, c'est sûr qu'il a dû réagir négativement à ça. Ça n'a pas dû aider. Mais ça a dû faciliter, mais le pousser un petit peu vers la sortie de Montréal là, prématurément.
Dans les années 83, 84, 85, le Canadien n'est plus le Canadien des années 70. Il n'y a plus de Dryden dans les nets. Il n'y a plus. Serge Chavard s'est rendu le DG. Ça a changé. L'équipe a changé. L'équipe est moins performante que dans les années 70. Anthony vient de réapparaître. On parle du Canadien des années 80, mon cher Anthony. Je disais que le Canadien des années 83, 4, 5 n'est plus autant performant que dans les années 70. Il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs qui se sont retraités. On est en pleine, comme dirait Bergevin, en reset. On essaie de faire un retool du Canadien. Et puis là, Jacques Lemaire, on est rendu là. Jacques Lemaire arrive avec un système défensif.
Lemaire qui ne voulait pas la job au départ.
Ah non?
Non. C'est vraiment Serge Chavard qui a réussi à le convaincre d'y donner. Puis c'est un peu là que, dans le fond, il a demandé carte blanche.
Okay.
Et puis, maintenant, il y en avait son troc. Fait que là, c'est là qu'ils ont comme préparé un peu la venue de Jean Perron là, un peu plus tard, là, dans les années 80, puis avec l'histoire qu'on connaît. Mais ouais, le début des années 80, là, c'était quand même assez difficile, je dirais. Là, pas au niveau. Je pense qu'en série, on y allait presque à tous les ans. Mais, tu sais, exemple, ils ont perdu, je pense, en 82 contre les Nordiques ou 84. Bref. Il y avait des situations là, que c'était plus triste un peu. Dans les filets aussi, là, on a fondé bien des espoirs sur Rick Wamsley au début des années 80. Par la suite, il y a eu des vétérans comme Richard Sévigny qui a tenté de tenir le fort un certain temps. Et par la suite aussi, là, Steve Penney qui est arrivé. Puis là, le fameux la naissance et l'arrivée de Patrick Roy. Mais mettons jusqu'à la fin du parcours de Guy Lafleur chez le Canadien, c'était quand même assez triste. Là. On n'avait plus l'ADN de champion là, qu'on avait connu de 1950 à 1980.
C'est ça. Puis tu sais, quand. Que... Ah, ben vas-y,
Jean. Non, vas-y, Jean.
Parce que, tu sais, tantôt, tu parlais de l'époque des glorieux des années 70, tu sais, Montréal, tu sais, dans le contexte socio-historique, on finit 59, la guerre de noirceur, on arrive en 60 avec la Révolution tranquille. Paf, en 67, il me semble, c'est l'exposition universelle à Montréal. Quelques années après, les Jeux olympiques. Pendant ce temps-là, Montréal...
C'est l'effervescence.
Écoute, Montréal, c'est la grosse pomme du Canada. Là. Ça fonctionne comme sur des roulettes. Les Canadiens gagnent des Coupes Stanley à répétition. Puis là, on arrive avec la fin de la carrière de plusieurs joueurs en 79. Là. Dryden s'en va. Je pense que Lemaire est parti. Schott est parti. Puis il y en avait plusieurs qui étaient sur leurs dernières années. On arrive avec le départ de Guy Lafleur qui a créé une espèce de schisme... Heureusement pour les gens de l'époque en 80, qui a été de courte durée, parce qu'en 86, on est revenu avec une Coupe Stanley. Mais durant ces quelques années-là, tu sais, on pourrait comparer l'espèce d'écœurantite aiguë des gens, un petit peu comme nous, on l'a vécu quand Patrick Roy est parti.
Ouais.
Il y a eu une zone un peu noire. Dans le début des années 80, il y a une récession.
C'est pas une belle époque. Les années 80, non. Cette époque-là, c'est vraiment pas beau au Québec, là.
Non, c'est ça. On est passé à travers vraiment un high extraordinaire dans les années 70. Puis on arrive au début des années 80. Lafleur s'en va. C'est la récession. Le Canadien perd. Référendum. Quelques années après. Le Québec se cherche là, énormément. Là. Puis, le Québec s'est raccroché beaucoup avec ses sportifs dans ces années-là.
Ouais.
Puis là, ben, on ne réussit pas à se raccrocher avec nos sportifs. Là.
On dirait qu'on dégrise des années 70. Là. Dans les années 80, on dégrise un peu. Là, c'est comme, oh, OK. Bon. Lendemain de veille, un peu de toute cette belle époque-là, de, ben, justement, sociale, économique, sportive, etc. Et puis, arrivent tous ces événements-là. Guy Lafleur, dans les années 80, personnellement, ça ne va pas vraiment bien. Très axé, dans le fond, sur le nightlife, excusez-moi, le nightlife. le nightlife, problème d'alcool aussi, je crois. Guy Lafleur, accident de voiture en 81 qui a failli le tuer. Je regarde encore les photos aujourd'hui et je ne comprends pas comment il a pu survivre à ça. Je vais vous la partager, cette image-là, ça ne sera pas trop long. C'est vraiment incroyable, avec une espèce de pôle de métal qui sort.
Il y a quelque chose qui me dit qu'en 81, il n'était pas attaché non plus.
Ouais, c'est ça.
Aussi. Ah, c'est, ouais, c'est quelque chose.
Ouais,
avec voilà. Le logo du Canadien.
Ouais, avec un sticker du Canadien du côté conducteur. Et puis une pôle de métal qui passe bord en bord du pare-brise. Et puis qui aurait dû être planté directement dans le corps de Guy Lafleur, mais il a réussi à l'esquiver. C'est vraiment incroyable. Okay? Mais le Canadien, dans le fond, les communications du Canadien ont dit qu'il s'était endormi au volant. Mais plus tard, dans sa biographie, a avoué qu'il était en état d'ébriété lorsque c'est arrivé. Alors... Mais c'est pas en même temps, il faut dire que je veux pas normaliser ça, mais on s'entend que dans les années 80, il y avait plus de gens qui conduisaient en état d'ébriété, dont aussi M. René Lévesque qui avait eu un accident de ce type-là, qui a eu des conséquences un peu plus fâcheuses, on va se le dire. Alors, c'était une époque pour Guy Lafleur où est-ce que justement ça allait pas bien aussi du côté personnel. Et puis là, arrive 1984 où est-ce qu'il décide de se retraiter. Paumé, est-ce que tu connais les circonstances de cette retraite de Guy Lafleur? Comment ça se fait qu'après seulement 15 ans, il décide de s'en aller? Même pas 15 ans complétés, là. 14 saisons complétées, il commençait la 15e. Qu'est-ce qui se passe pour Guy Lafleur? Est-ce qu'il est en dépression? Ça va-tu bien? Qu'est-ce qui se passe?
Écoute, je pense que les attentes envers lui étaient quand même encore très grandes, puis il était peut-être pas en mesure d'atteindre ses objectifs, mais je crois aussi que la relation avec son bon vieil ami Jacques Lemaire n'était pas au point, et avec la direction de l'équipe non plus. Pourquoi? Il s'est senti peut-être un peu abandonné dans toute cette histoire-là. On lui demandait de jouer un rôle qui faisait pas de sens dans une formation plus défensive. Voyait les minutes s'égrener devant lui, ne participait pas tant que ça aux avantages numériques. Et après seulement quelques matchs dans la saison, il a pris tout le monde par surprise en annonçant entre autres à M. Corée et à M. Savard qui venait de jouer, dans le fond, qui allait jouer, c'était sa dernière année, non seulement pour le Canadien de Montréal, mais il voulait prendre sa retraite au terme de la saison. Je pense que c'est quelques mois plus tard, là, il y a eu le fameux dernier match là, avec l'ovation. J'ai un oncle qui était là, justement, il en parle avec les étoiles dans les yeux. C'était une atmosphère électrique, cataclysmique, apparemment, les applaudissements et les ovations. À l'époque, ça avait été vraiment apparemment un événement là, à ne pas manquer. Probablement là, que le forum était à pleine capacité, puis s'il y avait une place debout, il y avait quelqu'un. Ça devait être ce genre de soirée-là. Mm-hmm. Je crois qu'au niveau des partisans, ils ont toujours eu l'idole dans leur cœur, malgré tout. Et puis, Guy le savait, ça. Fait que cette partie-là, il se rendait compte un peu qu'il y avait quand même le soutien, même s'il avait l'impression un peu de les abandonner. Concernant la situation avec la direction de l'équipe, comment c'était géré à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Assez que ça a mené Guy à prendre ses distances de l'organisation.
Ben, tellement que 3 ans plus tard, Guy Lafleur décide de sortir de sa retraite et de s'aligner avec les Rangers de New York. est-ce que moi j'ai pas lu là-dessus rien, j'ai essayé de comprendre pourquoi que le pourquoi il n'est pas retourné avec le Canadien. Est-ce que c'est encore cette amertume-là? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous le savez? Ou,
Cette année-là, dans le fond, il s'était entraîné un peu en secret, un programme, c'est un programme, je pense, là, de boxe ou whatever. Là, j'ai lu un peu là-dessus. Là. Et c'est ça. Hein? Et puis, il avait décidé de... dans le fond, ils faisaient leur camp à Trois-Rivières. Une partie du camp des Rangers se passait à Trois-Rivières. Okay. Michel Bergeron était dans l'organisation des Rangers à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez là, qu'il a été échangé contre un choix de première ronde là, dans les années 80. Là. Je ne suis pas sûr qu'on a revu ça. Là. Un coach était échangé contre un choix de première ronde.
C'est
là.
N'importe quoi.
Mais ouais, on était vraiment... écoutez, c'était Phil Exposito. C'est-tu cette année-là? Non. Il était dans le giron là, pour cette décision-là. Et dans le fond, c'était une invitation un peu, mais les PTO aujourd'hui, là, les professionnels, je sais pas trop quoi. Là,
ouais, les try-outs. Crème,
mettons, le Fleischmann a eu ça avec Montréal. Ouais, c'est ça.
Les essais professionnels.
Donc, c'était ce type-là. Ouais, les essais professionnels, exactement. Puis, il a réussi à surprendre tout le monde. Puis, non, écoute, c'est ça, c'était Michel Bergeron qui était le head coach.
OK.
Avec Charles Tifault, qu'on connaît bien comme assistant coach, puis vraiment très le fun à lire, que aussi Wayne Cashman, qui était un valeureux Bruins des années auparavant. Puis il y avait quand même Marcel Dion aussi dans cette équipe-là. À ce moment-là, je suis en train de regarder
vrai,
ça en
Marcel
même temps
Dion.
Que je vous parle.
C'est vrai, Marcel Dion a joué pour les Rangers. Ouais.
Bref, je sais pas si c'est exactement la même année. Là, je cherche Tigui, là, puis en tout cas, c'est un peu dans une atmosphère de ce type-là là, qui s'est retrouvé avec les Rangers.
OK. Et puis...
L'âge de guerre n'était pas enterré encore avec le Canadien. Là.
OK,
non,
voilà.
Non, vraiment pas. Okay. Elle était encore assez creuse dans le sol.
Ouais, c'est
quand,
ça.
malheureusement, le premier match de la saison qu'il y a eu contre les Canadiens de Montréal, Guy était blessé à la cheville, il pouvait pas faire ce match-là. Mais il a quand même été sur la glace pour parce que c'était genre un des premiers matchs de la saison. Là, c'est, il y avait une présentation, puis évidemment, il a été présenté. Puis à ce moment-là, il a enfilé directement sur la patinoire son chandail des Rangers. Les gens applaudissaient quand même à Touron parce que c'était Guy Lafleur, mais c'est quand même de le voir enfiler là, tu sais... Son gilet des Rangers, ça faisait ce crunch-là.
Ah, ça doit faire mal.
Tu pouvais le ressentir, là.
Ouais.
Moi, je suis né en 81, évidemment, je ne l'ai pas vu, là. Mais, tu sais, quand tu regardes les vidéos, tu regardes les gens dans les gradins, tu t'imagines à leur place, tu fais comme
ça. Ah, ça doit faire mal au cœur.
Oui, absolument.
Puis c'est arrivé tellement souvent avec le Canadien. Il y a à peu près juste Jean Béliveau qui a vraiment gardé des bons liens. Même Maurice Richard, il s'est éloigné de l'équipe. Bernard Geoffrion, ça n'a pas bien fini. Doug Harvey, ça n'a vraiment pas bien fini. Patrick Roy, si proche de nous, ça n'a pas bien fini non plus. Il y a souvent eu du gros drama à Montréal. Où est-ce qu'il y a de la passion, il y a du drame.
Oui.
Mais souvent, ce qui est dommage, c'est que c'est pas avec les partisans que ça finit mal. C'est avec l'organisation.
Ouais.
C'est ça qui est plate. Quand, justement, parlons de Patrick Roy. C'est pas. Ben, en même temps, les gens ont. Avant l'échange de Patrick Roy, tout le monde voulait l'échanger, mais ça s'est fait avec Mario Tremblay, etc. Là. C'était à l'intérieur de l'organisation que ça
allait. Je vais revenir.
Oui, vas-y pour moi.
Excuse-moi, Jérémy, je vais revenir là, par rapport à Michel Bergeron. Là, le 18 juin 1987, ses droits ont été échangés des Nordiques de Québec aux Rangers de New York contre un choix de première ronde de 1988 qui est devenu Daniel Doré.
OK. Ah, ben. OK.
C'est assez spécial.
Daniel
Doré. Assez spécial. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu ça deux fois dans la Ligue.
Ben, c'est la seule fois que j'ai entendu parler. Et puis Daniel Doré qui est maintenant un recruteur.
17 matchs. Ouais, 17 matchs dans la Ligue nationale, Daniel Doré.
Ah, et voilà. Aller chercher un coach, c'est quand même extraordinaire. Son arrivée avec les Nordiques, comment ça s'est passé? Est-ce que tu sais, Paumé, dans le fond, la saison 87 avec
par
Rangers?
Par la grande porte.
Par la grande porte pour terminer la carrière.
C'est 88-89 avec les Rangers, puis à partir de 1989-90 avec Québec. Par la grande porte, là, c'est, on venait boucler la boucle avec les remparts. Guy Lafleur était extrêmement reconnaissant. Michel Bergeron, entre autres, avait aidé à ce que ça puisse, dans le fond, prendre contact avec la direction. Puis là aussi, on voulait essayer hein, vraiment ce que Guy valait. Mais en même temps, on avait une équipe là, qui était en train de renaître de ses cendres. Là. On venait de donner le flambeau à un Joe Sakic. Puis il y avait des choix au repêchage là, qui commençaient à vieillir un peu autour de l'organisation, dont les Owen Nolan et Matt Sundin. Fait que, on est vraiment dans un moment, je trouve, où ce que Guy est arrivé d'un beau moment dans cette organisation-là. Il a apporté, je pense, de quoi qui a permis à des jeunes de cette équipe-là de voir c'est quoi une légende, c'est quoi un gagnant. Puis on connaît la suite. Malheureusement, ça a cumulé au Colorado. Mais le noyau avait eu la chance d'avoir un Guy Lafleur en fin de carrière dans leur vestiaire. Hey, sa première année, c'est 34 points en 39 matchs. C'est presque un point par match. C'est quand même très, très, très respectable. Et puis, par la autre année ensuite, dans le fond, en 90-91, sa dernière année. Ça, si vous voulez vous situer dans le temps, là, c'est l'année de la première Coupe des Pingouins avec Mario Lemieux. Donc, il a terminé sa carrière là, cette année-là.
OK. Une carrière pleine de rebondissements pour Guy Lafleur. Un monsieur avec les partisans très gentil. Quelqu'un qui ne refusait jamais de signer un autographe. Quelqu'un qui te recevait à son restaurant, que ce soit au Bleu, Blanc, Rouge ou bien à son Mike's dans les années 80. recevait les gens, était très gentil, tout ça. Mais qu'il y a eu plusieurs démêlés, si je peux dire, avec sa propre organisation, plusieurs problèmes. Et puis c'est très dommage qu'à Montréal, nos grandes vedettes finissent souvent comme ça. C'est très malheureux pour eux autres. Quel souvenir garderons-nous? On va finir avec ça pour aujourd'hui, messieurs. Quel souvenir garderons-nous de Guy Lafleur, ce grand? Cette légende devenue un mythe, ma foi.
Je vais y aller.
Oui, vas-y.
Je vais laisser les mots de la fin à Anthony ou tu reviendras, Jérémy, ouais. Parce que toi aussi, peut-être que pour toi, t'as une idée de ce que ça représente. Ben, tu sais, t'en as parlé un petit peu, Anthony, tantôt. Moi, je me rappelle d'avoir vu l'exposition en chapelle ardente de Maurice Richard à la télévision. Puis j'avais trouvé ça extraordinaire. Des funérailles nationales, tu vois à quel point l'homme est grand, là. Puis quand M. Béliveau est décédé, moi, j'ai revécu la même chose. Il y a une exposition en chapelle ardente. Puis, j'ai pas eu le choix de me dire, OK, le prochain, c'est qui? C'est Guy Lafleur. Puis après, Guy Lafleur, c'est qui? C'est fini. Il n'y en a pas d'autre après Guy Lafleur. Malgré les 11 Coupes Stanley d'Henri Richard, malgré tout ce que peut représenter Yvan Cournoyer, malgré ce que Patrick Roy peut représenter aussi, puis même, tu sais, je dirais Sakou Koivu, qui est quand même dans le cœur des amateurs du Canadien de Montréal, là, un grand joueur de hockey, malgré tout ça, le dernier, c'est Guy Lafleur. Guy Lafleur a permis aux Québécois de s'envoler après toutes les luttes que le peuple québécois a pu mener dans les années qui ont précédé. Qui ont été transportés par les luttes de Maurice Richard, qui ont été transportés par la sagesse puis la stature de Jean Béliveau. T'sais, Guy Lafleur, là, c'est le gars décomplexé. Là. C'est le gars qui est sûr de lui, qu'on ne dira pas qu'il ne peut pas gagner parce que lui, c'est un gagnant. Puis le Québec était rendu là à gagner à ce moment-là. Lui, il représente tout ça. Il représente exactement ce que le Québec était dans ces années-là. Puis par nostalgie, ben on le regarde, puis on se dit que c'est un grand homme. Il va avoir des funérailles nationales, je peux pas. Ben, en tout cas, c'est sûr que c'est la famille qui a le dernier mot, là, mais la porte est vraiment grande ouverte à ça. C'est ça. On va vraiment se souvenir d'un gars extraordinaire, très proche des partisans, toujours là pour donner son commentaire. Avec le charisme qu'il avait, la réputation qu'il avait, il pouvait se permettre de, de prendre la langue de bois une fois de temps en temps, puis on était incapable de lui en tenir rigueur. Je pense que les Québécois, ils ont toujours pardonné tous ces petits écarts de conduite qu'il a pu avoir.
Ben, c'était un homme franc. Moi c'est ce que je retiens de Guy Lafleur, sa franchise, premièrement. En tout temps, tu sais, c'était une recrue où, comme disait Jean Perron, une recrue d'expérience dans ses premières années. Et puis, il y avait une franchise que souvent, ben, dans ces années-là, que normalement, une recrue ne parle pas comme ça. Une recrue va se contenir, va laisser parler les vétérans. Mais lui, sa franchise prenait le dessus. Il n'y avait pas le petit quelque chose dans la tête qui dit non, dis-le pas. C'était un homme franc, mais en même temps très vrai. Et puis là, je me répéterai, messieurs, avec les commentaires de Jean, mais justement, près des gens, justement, près des partisans, un amour inconditionnel pour ses partisans et pour le logo qu'il a porté sur sa poitrine. Et puis, dernièrement, le dernier des grands, le dernier des géants du Canadien, malgré tout le respect que je porte justement à un certain M. Yvan Cournoyer, dit le Roadrunner, ou bien à Henri Richard, qui est décédé au début de la pandémie en 2020, ou à Patrick Roy dans plusieurs années, souhaitons-le, dans plusieurs années, malgré tous les accomplissements que ces hommes-là ont fait, Guy Lafleur, malheureusement, est le dernier de cette longue tradition, je crois, du Canadien de Montréal. Et puis, Paumé, on va te laisser sur les mots de la fin. Et puis, on va finir avec un petit vidéo. On va regarder des bons moments de Guy Lafleur.
Premièrement, je suis vraiment content d'avoir partagé le micro avec vous, les boys, concernant ce sujet-là. C'est une très belle et bonne première, mon cher. Tu as super bien fait ça. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on va parler de hockey et trois ensemble.
Oui.
Concernant Guy Lafleur, écoutez, oui, c'est le dernier. Je trouve que dans l'histoire mythique du Canadien de Montréal, qui a pris vraiment un envol là, de dominance là, à partir des années 50 et qui s'est terminé au tournant des années 80. On était gâtés vraiment par des formations extraordinaires, mais il y a quand même eu des joueurs d'exception, des joueurs générationnels. Et si les Oilers d'Edmonton ont pu jouir d'avoir un Wayne Gretzky, si les Penguins de Pittsburgh ont pu jouir d'avoir un Sidney Crosby, même chose pour les Capitals de Washington. Maintenant, les Coupes Stanley sont plus dures à gagner, mais on s'entend qu'un gars comme Alexander Ovechkin, là, qui se rapproche dangereusement de Gordie Howe, c'est des joueurs générationnels. Mais à Montréal, on en a eu. Et malheureusement, on n'en a plus, ou on en a eu, mais sur des périodes peut-être plus courtes. Là, je pense entre autres à un gars comme Carey Price, là, qui a dominé les gardiens là, pendant la décennie 2010 à 2020. Jusqu'à certains points, là, ça rentre, là, l'an dernier, là, ça s'est tiré, là, mais une finale qu'il aurait peut-être dû avoir des années auparavant, ce n'était que de Chris Kreider. Donc, c'est dur à évaluer avec les temps modernes, mais je crois que Guy Lafleur arrive dans la Ligue nationale en 2008 et est probablement pareil, un des joueurs les plus dominants de la Ligue, si c'est pas le meilleur. Il y a des gars qui sont comme ça. Il y a des gars, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, qui savent mettre toutes les recettes que ça prend pour exploiter au maximum leur talent. Tu sais, Guy Lafleur, là, il avait pas un bâton en composite qui est ultra léger là, avec une performance qui accélère le lancer énormément. Il avait pas les patins moulés aux pieds. Là. Il patinait avec des patins en cuir et à tube. Là. C'était... Tout ce qu'il y avait, c'était naturel, franc, avec les outils de l'époque qui commençaient à évoluer. Mais c'était vraiment pas la qualité qu'il y a aujourd'hui, malgré qu'il a quand même évolué jusqu'aux années 90. Mais pensez à ça. Le prochain Guy Lafleur du Québec, ben, t'sais, il y a peut-être eu Mario Lemieux, mais par la suite, là, on n'a pas vraiment eu de joueurs québécois tout court qui sont de ce niveau-là. Je salue un Huberdo cette année qui a une saison incroyable. Ouais. Il y a eu d'autres joueurs québécois quand même qui ont tiré très, très bien leur épingle du jeu. Mais pensez à ça, les gars. mettons, après le mieux, là, parce que lui, il a une classe à part, là, mais sinon, là, on pense à Guy Lafleur, entre autres chez le Canadien, mais côté produit de la Ligue junior majeure du Québec, on n'a jamais réatteint ce niveau-là.
Exactement. Merci, merci, mon cher Anthony, pour ton partage.
Ça me fait plaisir.
Ouais. Merci d'avoir participé et d'avoir pris un peu de ton après-midi en ce samedi pour venir rendre hommage à ce grand Guy Lafleur qui nous a quittés. Merci, mon cher Jean.
Pour, ça me fait plaisir, Jay. Merci de l'invitation. Puis je vais revenir si tu m'invites.
Ben oui, certain. Tu vois que c'est vraiment convivial hein, sur la Terre des Hommes. Et puis qui sait, peut-être bientôt allons-nous parler des séries avec Joe qui sera présent. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Merci à ceux qui se sont présentés. Et puis, on va se laisser avec... Est-ce qu'on passe la vidéo que tu m'as envoyée, Paumé, sur la game contre Boston?
En effet, dans le fond, c'est le but égalisateur là, de la semi-finale de 1979. Pour mettre les gens en contexte, les Bruins ont entré dans ce match-là en menant la série 3-2. Et puis, il menait 2-1 avec moins d'une minute 30 à jouer. Et s'enlignait probablement pour défaire les champions là, canadiens qui étaient champions depuis 3 saisons consécutives à cette époque-là. Et il est arrivé à une situation où le valeureux Don Cherry a eu une mésentente au banc et les Bruins se retrouvent avec 6 patineurs. Et le Canadien se retrouve en avantage numérique. Et puis, à partir de maintenant, mon cher Jérémy, tu peux démarrer la vidéo. On est rendu là.
Super. Alors, on vous dit à la semaine prochaine ou dans quelques jours pour un autre épisode de Sur la Terre des Hommes. 55 seconds left in the penalty, a minute and 27 seconds left in regulation time. Boston 4, Montreal 3. Lafleur coming out rather gingerly on the right side. He gives it into Lemaire, back to Lafleur. Oh! Appropriate if anybody's going to score for the Canadiens, then their gunner, Guy Lafleur, he takes that drop pass after he had initiated the play. He beats Gilbert with a hard slap shot from the right side, low one on the far side. Guy Lafleur sends his place into a frenzy again. Well, this has got to be heartbreaking for the Boston Bruins. The first two games of the series in here, they played very well, and everything went against them late in the game. They lost both. Here tonight, they saw a 3-1 lead wiped out. Then they came back. They took the lead. And a bench penalty, of all things, caused the loss of the lead again.
Well, Guy Lafleur put it just inside the pipe. What a great goal scorer he is. And he capitalized on the opportunity to drop pass from Lemaire. We don't know who's going to win, but here's the drop pass and a shot by Lafleur sending this game into the overtime. Unless somebody scores it, and then it's 14 to go.
Well, that was a well-executed goal. You see Lafleur, the lead pass up to Lemaire. Lemaire in over the line, dropping it back. And then Lafleur, he has tremendous power in his shot.
Well, the Bruins might be a little down, but they aren't quitting right now. And you have to expect that anybody that gets an opportunity right now to win this game, and you might see it open up a little bit.
You also might see overtime.
Exactly. Lafleur now leading all playoff scores with 8 goals, 2 in the power play.
So a minute and 14 seconds.